Le journal Yves Decamp, bonsoir.
Bonsoir. Un nouveau samedi en jaune pour plusieurs milliers de manifestants. Ils étaient 27 000 dans tout le pays à 14 heures, selon les chiffres du ministère, dont 7 000 à Paris, où après un défilé dans le calme, des affrontements ont éclaté aux Invalides. 20 personnes ont été interpellées, 86 dans toute la France à 17 heures. Le même scénario s'est reproduit en de nombreux endroits. Pour les manifestants qui dénoncent des violences policières, le grand débat national lancé par Emmanuel Macron n'est qu'un leurre. C'est ce que pense aussi Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement national, en campagne pour les européennes et qui continue à surfer sur ce mouvement des gilets jaunes. Dans ce journal également, les anti-Orban dans les rues de Budapest en Hongrie, un mouvement qui marque le pas. Pour les Bleus face au champion d'Europe espagnol en ce moment même, au championnat du monde de hand, le match n'est pas terminé. France, États-Unis au Havre tout à l'heure. Pendant la Coupe du Monde, à quelques mois de la Coupe du Monde de foot féminin, du sexisme. Dans le monde numérique, ça existe aussi. C'est la vie connectée de Christine Simone tout à l'heure. Et puis la météo, un peu de douceur demain près de l'océan et de la Méditerranée sous les averses. Des éclaircies au nord de la Somme, de la neige dans le Grand Est.
France Inter.
27 000 manifestants dans tout le pays à 14 heures selon les chiffres du ministère. 7 000 à Paris, c'est un peu moins que la semaine dernière, mais les chiffres seront revus à la hausse en soirée. Le 10e samedi de mobilisation des Gilets jaunes se sera passé comme le précédent, des défilés plutôt calmes et pacifiques, suivis en fin de manifestation d'un face-à-face avec les forces de l'ordre. C'est partout d'ailleurs le même scénario. Il y a ceux qui défilent et ceux qui veulent en découdre en dénonçant les violences policières. 20 personnes ont été interpellées à Paris. Chiffre là également du début de l'après-midi. Julie Pietri, reportage du côté des Invalides à Paris.
Le gilet jaune est devenu au fil des manifestations un étendard sur lequel on inscrit sa rage, sur lequel on accroche aussi aujourd'hui des photos. Photos de visages blessés, tuméfiés, les victimes, disent les manifestants, des violences policières.
Des parties de corps mutilées, hein, on voit bien qu'il manque de la chair, des lèvres, des dents, des mâchoires cassées. Un beau confrère, et puis le jeune pompier qui est dans le coma aujourd'hui. Bon. Et notre cher ministre, Monsieur Castaner, dit qu'il n'a jamais vu un policier attaquer un manifestant. Donc voilà, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ça.
Justement, fin de cortège.
Une charge.
Après une charge des policiers contre des hommes en noir cagoulés, qui pour certains clairement les provoquaient, un gilet jaune passe en vélo à proximité des fourgons de police. Du plat de la main, il tape sur un véhicule avant de poursuivre sa route. L'homme est alors coursé par une dizaine de policiers qui lui hurlent dessus. L'un d'entre eux lui jette un coup de pied pour le faire tomber à terre. Il est menotté sous les yeux de manifestants médusés. Un habitant du quartier qui ne protestait pas aujourd'hui perd son sang-froid. Invective les forces de l'ordre. Vous êtes devenu fou, vous faites n'importe quoi, vous faites honte à ma France. Racontez, madame, ce que vous venez de voir. Une action répressive, donc violente et filmée, qui, si elle fait le tour des réseaux sociaux, alimentera encore la colère vis-à-vis des policiers.
Julie Pietri, à propos de l'utilisation des lanceurs de balles de défense dont la France Insoumise a demandé l'interdiction, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a déjà répondu que si on supprimait les moyens de défense de nos forces de l'ordre, il ne leur resterait plus que le contact physique, ce qui ferait beaucoup plus de blessés encore. Comme samedi dernier donc, les rassemblements ont été nombreux, à Toulouse notamment, où la mobilisation a battu un record avec au moins 10 000 personnes, à Bordeaux, où la situation a de nouveau dégénéré en fin d'après-midi, à Rouen, à Caen, Lille, Grenoble, pour les plus importants de ces rassemblements, tous commençaient dans le calme avant que la situation ne se tende en fin de manifestation, comme à Marseille, Olivier Martoc.
2 à 3 000 personnes ont parcouru les rues du centre-ville durant 3 heures. À chaque point de fixation, par exemple devant la préfecture, les policiers ont tiré des gaz lacrymogènes sans la moindre sommation, ce qui a choqué de nombreux gilets jaunes.
On était vraiment tranquille, on s'est approché, on s'est arrêté. On commençait à chanter, c'est tout ce qu'on faisait, ils nous ont balancé les lacrymogènes. C'est vraiment dégueulasse.
Il n'y avait rien, on manifestait, on avait des slogans, et ils ont gazé immédiatement, vous voyez dans quel état je suis. Mais d'autres là sont en train de vomir, là, voilà. Il n'y avait rien. C'était une manifestation pacifique, on avait des choses à dire, c'est immédiatement qu'ils ont envoyé les gaz lacrymogènes. Et la prochaine fois, on sera deux fois plus.
On se trouvait dans une rue étroite. Ça a créé un mouvement de panique. Il y a des gens qui sont tombés, qui se sont fait marcher dessus. C'est atroce, on n'est plus en démocratie, monsieur.
Cette méthode musclée a été employée à 4 ou 5 reprises, notamment en gare Saint-Charles, que 300 gilets jaunes voulaient investir. Pour les policiers, ce schéma tactique a parfaitement fonctionné. Il n'y a pas eu le moindre dégât en centre-ville, où les magasins sont restés ouverts et où de très nombreux clients ont fait leurs courses tout à fait normalement. Marseille, Olivier Martoc, France Inter.
À Rennes, un policier et un gendarme ont été légèrement blessés. Une manifestante a fait un malaise après une charge des CRS. 86 personnes avaient été interpellées dans tout le pays à 17h. C'est le grand dégât national, disait une banderole parisienne tout à l'heure, une banderole très explicite. Les gilets jaunes mobilisés ce samedi ne croient pas au débat national lancé cette semaine par le chef de l'État, qui continuera d'ailleurs ses rencontres avec les élus du monde rural, dans lesquels les manifestants ne se reconnaissent pas. Manifestement, les gilets jaunes que soutient plus que jamais Marine Le Pen en campagne pour les européennes. La présidente du Rassemblement National, dans son premier meeting sur le terrain dans le Vaucluse, près d'Avignon, continue à surfer sur ce mouvement des gilets jaunes. Maxence Lambrecq.
Dans les sacs à main et dans les poches, des tas de gilets jaunes.
Depuis le 17 novembre, on est sur les ronds-points.
Parce que je suis avec les gilets jaunes à 100%. Hein.
Mais la consigne est passée, gilets jaunes interdits dans la salle pour ne pas nuire au mouvement, pour ne pas être accusé de récupération, explique son staff. Marine Le Pen en a rencontré certains à huis clos ce midi avant de monter sur scène.
Les gilets jaunes ont été et restent actifs. Qu'ils en soient félicités, qu'ils en soient remerciés, la France les soutient. L'Europe les regarde!
Dans ce gymnase, des gilets jaunes déchaînés pour qui la demi-mesure n'existe pas.
Vous trouvez normal que les gilets jaunes ils les massacrent autant? Vous trouvez ça normal que Castaner il envoie les policiers tabasser, matraquer, gazer? Si c'est ça la démocratie, il n'y a que Marine qui peut aider la France, parce qu'autrement on est foutu.
La patronne du RN n'a qu'un ennemi, Emmanuel Macron et son grand débat.
À l'image de Fidel Castro, qui discourait pendant 7 heures d'affilée, M. Macron a fait son show. Image flatteuse, faut bien le dire, pour un président en quête d'une nouvelle légitimité, mais un entre-soi interminable.
Et l'ovation intervient quand elles portent leurs revendications.
Ce que nous réclamons depuis plus de 30 ans, le référendum d'initiative populaire ou citoyenne.
Elle-même est persuadée que ce grand débat aboutira à un référendum aux questions consensuelles.
Maxence Lambrecq, il avait crié à la Akbar dans un TER Orléans-Paris. Le contrôleur a demandé l'arrêt du train en gare d'Artenay dans le Loiret. L'individu a été placé en garde à vue. Le trafic a dû être interrompu deux bonnes heures entre Paris-Austerlitz et les Aubrais. 117 migrants portés disparus au large des côtes libyennes. Ils étaient à bord d'un canot pneumatique parti il y a deux jours et dans lequel trois personnes ont été récupérées, trois rescapés originaires d'Afrique de l'Ouest. Tant que les ports européens resteront ouverts, a commenté le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini. Les passeurs continueront à faire des affaires et à tuer des gens. Le même Salvini qui demande à rencontrer Emmanuel Macron pour lui demander l'extradition des anciens activistes de l'extrême gauche italienne réfugiés en France. Ils seraient au nombre de 14. Des assassins pour Matteo Salvini qui dit vouloir les ramener en Italie comme Cesare Battisti. En Hongrie, les anti-Orban à nouveau dans les rues, mais de moins en moins nombreux. 2000 personnes environ dans le centre de Budapest cet après-midi, contre un peu plus de 15 000 avant les fêtes. Les manifestants protestent contre la loi travail, notamment le nouveau régime des heures supplémentaires et plus globalement contre la politique autoritaire du gouvernement. Louise Baudet à Budapest.
Du pont des chaînes qui traverse le Danube pour rejoindre le lieu du rassemblement, on en perçoit l'écho amplifié par les eaux. Au pied du château et des bureaux gouvernementaux, moins de 2000 personnes. Ce n'est pas l'affluence des débuts d'Orban au pouvoir, mais on est ici motivé pour défendre ses droits. Sur scène, la jeune lycéenne Blanka Noij, nouvelle cible des affidés du régime, harangue la foule. Combien de temps allons-nous encore supporter de devenir plus pauvres alors qu'eux s'enrichissent? Suit le rappeur Noir, très populaire dans la jeunesse libérale.
Luttons pour nos droits, des tziganes, des juifs, des migrants.
Sur l'écran géant, une carte de la Hongrie. Aujourd'hui, c'est en province que ça se passe. Les noms des villes mobilisées sont égrenés. Melinda, chef d'entreprise quadragénaire, est venue en soutien au syndicat. Elle n'est pas déçue par la mobilisation à Budapest. Non, ce n'est pas une déception, parce qu'aujourd'hui c'était dans tout le pays. Ici, on se mobilise en soutien. Ce n'est pas une manifestation pour Budapest. Prochain rendez-vous dans la capitale le 11 février. D'ici là, les syndicats encouragent les débrayages et espèrent lutter contre la lassitude après plus d'un mois de mobilisation. Budapest, Louise Baudet, France Inter.
au Mexique, 66 morts, 76 blessés dans l'explosion et l'incendie d'un oléoduc à 100 km au nord de Mexico. L'oléoduc était percé, les riverains venaient se servir en carburant, pratique courante dans ce pays où le manque à gagner pour l'État est estimé à 3 milliards de dollars chaque année. Il avait dérivé pendant un mois en Méditerranée. Un navigateur français au nom prédestiné, Jean-François Collat, a été récupéré par la marine israélienne alors qu'il naviguait radio cassée et sans gouvernail le long des côte de la bande de Gaza. Jean-François Collat, qui dit être parti en solitaire de la région de Montpellier fin décembre, a raconté à une télé israélienne avoir accumulé tous les problèmes informatiques et moteurs en panne, ancre cassée. Il ne savait plus où il était, n'avait presque plus rien à boire. Un permis de séjour de 15 jours lui a été accordé par Israël, le temps qu'il se remette de ses émotions.
Le journal de 19h sur France Inter.
En foot, la revanche du PSG contre Guingamp après son élimination par les Bretons en Coupe de la Ligue. Paris a écrasé Guingamp tout à l'heure en Ligue 1. 9-0, c'est un record. En revanche, le PSG qui perd Verratti, son milieu de terrain, sur blessure. Verratti blessé à la cheville gauche juste un mois avant le choc contre Manchester. C'est peut-être une mauvaise nouvelle. Et puis c'est un peu le France-Brésil des féminines. France-États-Unis, c'est la meilleure équipe du monde des États-Unis. Premier match amical des Bleus cette année. Le match se dispute au Havre. Tous les billets ont été vendus, soit 22 870 spectateurs attendus tout à l'heure au stade Océane. Bertrand Queneut.
Un stade à guichet fermé plutôt rare pour une enceinte qui tourne en moyenne à 6700 spectateurs cette saison pour son équipe du HAC en Ligue 2. Preuve que les Françaises sont attendues.
Ah, carrément.
Et Sandra fait partie des déçus, celles et ceux qui n'ont pas de ticket pour ce soir.
J'avais déjà vu le match quand l'équipe de France était venue au Havre il y a quoi, 2-3 ans. Et puis je voulais y aller, donc j'ai essayé d'appeler dans la voiture, mais j'ai pas réussi.
Tentative sur un jeu concours à la radio. Héloïse et Florent, eux, font partie des plus chanceux.
On accueille les États-Unis chez nous, en Normandie, une grande nation, c'est quelque chose de bien.
Moi, je suis vraiment trop contente que l'équipe de France joue. Bon, il n'y aura pas forcément Mbappé, mais ça sera quand même bien parce que je ne les ai jamais vus. Et ce qui est bien, c'est qu'ils sont au stade Océane.
Au stade Océane, pas de Mbappé, en effet, mais des grands noms que le public connaît désormais. Wendy Renard, par exemple, le défi grâce à qui le stade Océane réalise aujourd'hui la 4e affluence de sa jeune histoire. Amandine Henry, capitaine.
C'est toujours un rêve de jouer devant des stades à guichets fermés, voilà, ce stade nous porte chance. Ça va nous permettre aussi d'avoir des repères sur ce stade, sur ce terrain.
Des encouragements et des étoiles dans les yeux qui doivent aider les Bleus à en accrocher une première sur leur maillot en juillet prochain. Le Havre, Bertrand Queneut, France Inter.
France-États-Unis, coup d'envoi à 20h45. Les Françaises du biathlon, elles sont en forme. Elles ont fait mieux en relais que la Norvège et l'Allemagne. Aux 4x6 km de Ruppolding en Allemagne, relais comptant pour la Coupe du Monde. C'est leur premier succès de la saison. En tennis, Lucas Pouille, toujours en course à l'Open d'Australie. Dernier représentant français, qualifié laborieusement, mais qualifié quand même pour les 8e de finale. C'est la première fois dans ce tournoi. Il a battu en 5-7 un Australien, 149e joueur mondial, et jouera au prochain tour contre le Croate Borna Koric, le 12e mondial. Et puis, un résultat de rugby, c'est la Coupe d'Europe, le Racing 92, qui bat les Gallois de Scarletts 46-33. Les Parisiens qualifiés, bien sûr, pour la suite, ils l'étaient déjà. Le match de hand des championnats du monde à Cologne, la France et l'Espagne. Le match n'est pas tout à fait terminé. On rejoindra Jean-Pierre Blimaud dans un instant. La France qui mène pour l'instant 27-23. À la veille de la grande journée, ensemble contre le sexisme, jeudi prochain, coup de projecteur ce soir sur le sexisme dans le monde numérique. C'est votre vie connectée, Christine Siméone. Bonsoir.
Bonsoir à tous.
Dans les métiers et écoles du numérique, on n'échappe ni au sexisme, ni à la misogynie ordinaire, ni même à la minoration des compétences féminines.
Souvenez-vous des jeunes femmes de l'école 42, école de développeurs, qui avaient dénoncé les mauvaises blagues misogynes, les comportements machistes de leurs collègues étudiants. Pour aller sur le terrain de la vie quotidienne au travail, plus simplement, pour aller sur le terrain de l'attractivité des métiers, souvenez-vous d'une chronique d'il y a un an et demi que je faisais ici même, où je vous disais que les femmes ont finalement peu de place, peu de chances d'évoluer dans ce milieu. Et ça ne s'arrange pas. Dans le numérique, les femmes ne représentent qu'un tiers en moyenne, des salariés.
Et le plus inquiétant, c'est la faible représentation des jeunes filles, des femmes dans les formations numériques et scientifiques en général. Moins de 20% de jeunes filles en première technologique, par exemple.
Cédric Villani a préconisé dans son rapport sur l'intelligence artificielle d'atteindre 40% de femmes dans le numérique d'ici 2020. C'est demain matin.
C'est vrai que 40% d'ici 2020, c'est un vrai challenge, mais je pense que ça montre bien à quel point le sujet est sérieux et alarmant.
Ça, c'est l'avis de Consuelo Benicourt. Elle est directrice RSE, responsabilité sociale des entreprises, chez Sopra Steria. C'est un groupe qui accompagne les entreprises dans leur transformation digitale. Sérieux et alarmant, donc. Pour toutes ces raisons, Consuelo Benicourt s'emploie à rendre les métiers du numérique plus attractifs pour les femmes. Écoutez-la.
C'est vrai que quand on regarde aujourd'hui la connaissance qu'a le grand public finalement de nos métiers, je pense qu'il y a peut-être un travail grand public à faire avec une série télévisée, je ne sais pas, un jeu type Top Chef du numérique, voilà, sortir peut-être des sentiers battus, des témoignages, etc. Et passer effectivement sur une échelle plus grand public, sur une accessibilité finalement de nos métiers beaucoup plus fluide et beaucoup plus simple.
Une fondation a été créée, Femmes at Numérique, avec espoir de sensibiliser notamment les professeurs et les élèves des collèges et des lycées directement. La ministre du Travail elle-même a annoncé 200 000 créations d'emplois dans le secteur du numérique dans les années à venir. Ce serait dommage que les femmes passent à côté.
La vie connectée de Christine Simone, interview complète de Consuelo Benicourt à retrouver sur franceinter.fr. Allez, des platines, des amplis, des enceintes et même des pianos Steinway, c'est un peu de l'histoire de Radio France qui était mise aux enchères ce samedi à la Maison de la Radio. Des enchères apparemment fort appréciées, Manon Clavry.
Dès 10h du matin, amateurs et professionnels de radio viennent tester les instruments. C'est le cas de Didier Pascalis, il est producteur de musique et pour lui, Radio France fait partie du patrimoine culturel du pays.
Radio France étant une maison qui a bercé toute ma vie, je vais venir acheter un instrument symbolique, que ce soit une percussion japonaise ou une cymbale, pour garder un morceau d'histoire de cette grande maison chez moi.
Elsa Joly-Malhomme est commissaire-priseur et elle supervise la vente. Pour elle, la pièce maîtresse du jour est un piano électrique des années 70.
Des groupes de rock, de Led Zeppelin, Phil Collins, etc., ils avaient dans leur groupe ce type de piano. C'est vraiment le piano des musiciens des années 70-80, donc il est sympa.
Adjugé 7500,
les ventes durent toute l'après-midi et à la sortie, certains sont ravis. Mais d'autres, comme Thomas, sont un peu déçus.
Ça va très très vite. Et le Yamaha qui est parti à 3 800 € je crois hors frais, je pense que c'était une excellente affaire.
Mais il pourra se rattraper en ligne jusqu'au 28 janvier sur le site de la société de vente aux enchères art-richelieu.fr.
Après la radio, la lecture, troisième édition de la nuit de la lecture. Ce soir, l'occasion de célébrer la lecture sous toutes ses formes, avec des ouvertures en nocturne de nombreuses bibliothèques, de librairies, de musées. La nuit de la lecture, c'est au total 5000 événements dans plus de 2000 lieux à travers la France. Programme complet sur le site nuitdelalecture.fr. Comme promis, nous rejoignons Jean-Pierre Blimaud à Cologne pour les championnats du monde de hand. Il reste quoi, Jean-Pierre? 7-8 minutes à jouer entre les Français et les Espagnols.
7 minutes à jouer, les Français qui mènent, Yves. 30 buts à 26 pour une équipe de France qui a vraiment bien maîtrisé la partie pour le moment et qui est bien partie justement pour s'imposer lors de ce premier match du deuxième tour. On le sait, après 3 matchs ici à Cologne, on saura si les Bleus seront ou non qualifiés pour les demi-finales. Mais ce soir, il fallait absolument mettre déjà un pied dans le bon sens. C'est ce que sont en train de faire les joueurs de l'équipe de France qui ont vraiment maîtrisé de bout en bout. Ils ont mené très rapidement dans ce match. Ils ne se sont jamais fait dépasser. Ils ont été à égalité à 18 partout dans cette partie. Mais finalement, eh bien là, ils sont à plus 4. Et tout cela emmené à l'instant, depuis quelques minutes, par un super Melvin Richardson qui vient de marquer 5 buts quasiment depuis qu'il est entré sur le terrain dans cette deuxième mi-temps. Et puis, il y a une équipe de France très solide qui eh bien réussit complètement, qui atteint son objectif principal, imposer un défi physique imposant aux Espagnols qui, eux, ont un jeu un peu plus huilé. Et cette équipe de France, tactiquement, techniquement, physiquement, elle a été supérieure à cette équipe d'Espagne. Elle mène toujours donc 31 à 26 à quelques minutes, à 6 minutes de la fin de la partie.
Jean-Pierre Blimaud à Cologne restera à jouer contre l'Islande et la Croatie pour une place en demi-finale. Le temps.